Chapitre 4. À quelques jours de là, voici donc ce que lut Modeste à sa fenêtre par une belle journée du mois d'août. À Mademoiselle O. Odeste M. Mademoiselle. Sans aucune hypocrisie, oui, si j'avais été certain que vous eussiez une immense fortune, j'aurais agi tout autrement. Et pourquoi? Eh bien, j'en ai cherché la cause, la voici. Il est en nous un sentiment inné, développé d'ailleurs outre mesure par la société, qui nous lance à la recherche, à la possession du bonheur. La plupart des hommes confondent le bonheur avec ses moyens, et la fortune est à leurs yeux le plus grand élément du bonheur. J'aurais donc tâché de vous plaire, entraîné par le sentiment social qui, dans tous les temps, a fait de la richesse une religion. Du moins, je le crois. On ne doit pas attendre chez un homme, jeune encore, cette sagesse qui substitue le bon sens à la sensation, et devant une proie, l'instinct bestial caché dans le cœur de l'homme le pousse en avant. Au lieu d'une leçon, vous eussiez donc reçu de moi des compliments, des flatteries. Aurais-je eu ma propre estime? J'en doute. Mademoiselle, dans ce cas, le succès offre une absolution, mais le bonheur, c'est autre chose. Me serais-je défié de ma femme si je l'eusse obtenue ainsi? Bien certainement. Votre démarche eût repris tôt ou tard son caractère. Votre mari, quelque grand que vous le fassiez, finirait par vous reprocher de l'avoir avili. Vous-même, tôt ou tard, peut-être arriveriez-vous à le mépriser. L'homme ordinaire tranche le nœud gordien que constitue un mariage d'argent avec l'épée de la tyrannie. L'homme fort pardonne, le poète se lamente. Telle est, mademoiselle, la réponse de ma probité. Écoutez-moi bien maintenant. Vous avez eu le triomphe de me faire profondément réfléchir, et sur vous que je ne connais pas assez, et sur moi que je connaissais peu. Vous avez eu le talent de remuer bien des pensées mauvaises qui croupissent au fond de tous les cœurs, mais il en est sorti chez moi quelque chose de généreux, et je vous salue de mes plus gracieuses bénédictions, comme on salue en mer un phare qui vous a montré les écueils où nous pourrions périr. Voici ma confession, car je ne voudrais perdre ni votre estime ni la mienne au prix de tous les trésors de la terre. J'ai voulu savoir qui vous étiez. Je reviens du Havre, j'ai vu François Scochet, je l'ai suivi à Ingouville, et vous ai vu au milieu de votre magnifique villa. Vous êtes aussi belle que la femme des rêves d'un poète, mais je ne sais pas si vous êtes Mademoiselle Vilquin, cachée dans Mademoiselle Dérouville, ou Mademoiselle Dérouville, cachée dans Mademoiselle Vilquin. Quoique de bonne guerre, cet espionnage m'a fait rougir, et je me suis arrêté dans mes recherches. Vous aviez éveillé ma curiosité. Ne m'en voulez pas d'avoir été quelque peu femme, n'est-ce pas le droit du poète? Maintenant, je vous ai ouvert mon cœur, je vous y ai laissé lire, vous pouvez croire à la sincérité de ce que je vais ajouter. Quelque rapide qu'ait été le coup d'œil que j'ai jeté sur vous, il a suffi pour modifier mon jugement. Vous êtes à la fois un poète et une poésie avant d'être une femme. Oui, vous avez en vous quelque chose de plus précieux que la beauté. Vous êtes le beau idéal de l'art, la fantaisie. La démarche blâmable chez les jeunes filles vouées à une destinée ordinaire change pour le caractère que je vous prête. Dans le grand nombre d'arts, être jeté par le hasard de la vie sociale sur la terre pour y composer une génération, il est des exceptions. Si votre lettre est la terminaison de longues rêveries poétiques sur le sort que la loi réserve aux femmes, si vous avez voulu, entraîné par la vocation d'un esprit supérieur et instruit, apprendre la vie intime d'un homme à qui vous accordiez le hasard du génie, afin de vous créer une amitié soustraite au commun des relations, avec une âme pareille à la vôtre, en échappant à toutes les conditions de votre sexe, certes, vous êtes une exception. La loi qui sert à mesurer les actions de la foule est alors très étroite pour déterminer votre résolution. Mais le mot de ma première lettre revient alors dans toute sa force. Vous avez fait trop ou pas assez. Recevez encore des remerciements pour le service que vous m'avez rendu, en m'obligeant à me sonder le cœur, car vous avez rectifié chez moi cette erreur assez commune en France que le mariage est un moyen de fortune. Au milieu des troubles de ma conscience, une voix sainte m'a parlé. Je me suis juré, solennellement à moi-même, de faire ma fortune à moi seul, afin de n'être pas déterminé dans le choix d'une compagne pour des motifs cupides. Enfin, j'ai blâmé, j'ai réprimé la curiosité malséante que vous aviez excitée en moi. Vous n'avez pas 6 millions. Il n'y a pas d'incognito possible au arbre pour une jeune personne qui posséderait une pareille fortune, et vous seriez trahi par cette meute des familles de la prairie que je vois à la chasse des héritières à Paris et qui jette le grand écuyer chez vos vilquins. Ainsi, les sentiments que je vous exprime ont été conçus, abstraction faite de tout roman ou de la vérité comme une règle absolue. Prouvez-moi maintenant que vous avez une de ces âmes auxquelles on passe la désobéissance à la loi commune, et vous donnerez alors raison dans votre esprit à cette seconde comme à ma première lettre. Destinée à la vie bourgeoise, obéissez à la loi de fer qui maintient la société. Femme supérieure, je vous admire, mais je vous plains si vous voulez obéir à l'instinct que vous devez réprimer. Ainsi le veut l'état social. L'admirable morale de l'épopée domestique intitulée Clarisse Harlowe est que l'amour légitime et honnête de la victime l'amène à sa perte, parce qu'il se conçoit, se développe et se poursuit malgré la famille. La famille a raison contre Loveless. La famille, c'est la société. Croyez-moi, pour une fille comme pour une femme, la gloire sera toujours d'enfermer dans la sphère des convenances les plus serrées, ses ardents caprices. Si j'avais une fille qui dût être Madame de Staël, je lui souhaiterais la mort à 15 ans. Supposez-vous votre fille exposée sur les tréteaux de la gloire et paradant pour obtenir les hommages de la foule sans éprouver 1000 cuisants regrets? À quelque hauteur qu'une femme se soit élevée par la poésie secrète de ses rêves, elle doit sacrifier ses supériorités sur l'autel de la famille. Ses élans, son génie, ses aspirations vers le bien, vers le sublime, tout le poème de la jeune fille appartient à l'homme qu'elle accepte, aux enfants qu'elle aura. J'entrevois chez vous un désir secret d'agrandir le cercle étroit de la vie à laquelle toute femme est condamnée et de mettre la passion, l'amour dans le mariage. Ah, c'est un beau rêve, mais il n'est pas impossible, il est difficile. Mais il fut réalisé, pour le désespoir des âmes, passez-moi ce mot devenu ridicule, dépareillé. Si vous cherchez une espèce d'amitié platonique, elle ferait le désespoir de votre avenir. Si votre lettre fut un jeu, ne le continuez pas. Ainsi ce petit roman est fini, n'est-ce pas? Il n'aura pas été sans porter quelques fruits. Ma probité s'est armée et vous aurez, vous, acquis une certitude sur la vie sociale. Jetez vos regards vers la vie réelle et jetez, dans les vertus de votre sexe, l'enthousiasme passager que la littérature y fit naître. Adieu, mademoiselle. Faites-moi l'honneur de m'accorder votre estime. Après vous avoir vu ou celle que je crois être vous, j'ai trouvé votre lettre bien naturelle. Une si belle fleur devait se tourner vers le soleil de la poésie. Aimez la poésie, ainsi que vous devez aimer les fleurs, la musique, les somptuosités de la mer, les beautés de la nature, comme une parure de l'âme. Mais songez à tout ce que j'ai eu l'honneur de vous dire sur les poètes. Gardez-vous d'épouser un sot. Cherchez avec soin le compagnon que Dieu vous a fait. Il existe, croyez-moi, beaucoup de gens d'esprit capable de vous apprécier et de vous rendre heureuse. Si j'étais riche et si vous étiez pauvre, je mettrais un jour ma fortune et mon cœur à vos pieds, car je vous crois l'âme pleine de richesse, de loyauté. Je vous confierais enfin ma vie et mon honneur avec une pleine sécurité. Allez, encore une fois, adieu, blonde fille d'Ève, la blonde. » La lecture de cette lettre, dévorée comme une gorgée d'eau dans le désert, ôta la montagne qui pesait sur le cœur de Modeste. Elle aperçut les fautes qu'elle avait commises dans la conception de son plan et les répara sur le champ en faisant à Françoise des enveloppes de lettres sur lesquelles elle écrivit elle-même son adresse à Ingouville en lui recommandant de ne plus venir au chalet. Désormais, Françoise, rentrée chez elle, mettrait chaque lettre arrivée de Paris sous une de ses enveloppes et la jetterait secrètement à la poste du Havre. Et Modeste se promit de recevoir à l'avenir le facteur elle-même en se trouvant sur le seuil du chalet à l'heure où il passait. Quant au sentiment que cette réponse, où le cœur du noble et pauvre La Bruyère bâillait sous le brillant fantôme de Canalis, excita chez Modeste, ils furent aussi multipliés que les vagues qui vinrent mourir une à une sur le rivage, pendant que les yeux attachés sur l'océan, elle se livrait au bonheur d'avoir harponné, pour ainsi dire, une âme angélique dans la mer parisienne, d'avoir deviné que chez les hommes d'élite, le cœur pouvait parfois être en harmonie avec le talent, et d'avoir été bien servi par la voix magique du pressentiment. Un intérêt puissant allait animer sa vie. L'enceinte de cette jolie habitation, le treillis de sa cage, était brisé. Sa pensée volait à pleines ailes. « Oh, mon père !» se dit-elle en regardant à l'horizon, « fais-nous bien riches !» La réponse que lut 5 jours après Ernest de La Ballerière en dira plus d'ailleurs que toute espèce de glose. « À monsieur de Canalis, mon ami, laissez-moi vous donner ce nom. Vous m'avez ravi, et je ne voudrais pas autrement que vous êtes dans cette lettre, la première ou qu'elle ne soit pas la dernière. Quel autre qu'un poète aurait pu jamais excuser si gracieusement une jeune fille et la deviner ? Je veux vous parler avec la sincérité qui, chez vous, a dicté les premières lignes de votre lettre. Et d'abord, fort heureusement, vous ne me connaissez point. Je puis vous le dire avec bonheur, je ne suis ni cette affreuse mademoiselle Vilquin, ni la très noble et très sèche mademoiselle d'Hérouville, qui flotte entre 30 et 50 ans sans se décider à un chiffre tolérable. Le cardinal d'Hérouville a fleuri dans l'histoire de l'Église, avant le cardinal qui nous vient notre seule grande illustration, car je ne prends pas les lieutenants généraux des abbés à petit volume et à trop grand verre pour des célébrités. Et puis je n'habite pas la splendide villa des Vilquin. Il n'y en a pas, Dieu merci, dans mes veines de 10 millionième partie d'une goutte de ce sang froid dans les comptoirs. Je tiens à la fois et de l'Allemagne et du midi de la France. J'ai dans la pensée la rêverie tudesque et dans le sang la vivacité provençale. Je suis noble et par mon père et par ma mère. Par ma mère, je tiens à toutes les pages de l'almanach de Gotha. Enfin, mes précautions sont bien prises, il n'est au pouvoir d'aucun homme, ni même au pouvoir de l'autorité, de démasquer mon incognito. Non, je resterai voilé, inconnu. Quant à ma personne et quant à mes propres, comme disent les Normands, rassurez-vous, je suis au moins aussi belle que la petite personne, heureuse sans le savoir, sur qui vos regards se sont arrêtés. Je ne crois pas être une pauvresse, encore que 10 fois fils de pair de France qui m'accompagne pas dans leur promenade. J'ai vu jouer déjà pour moi le vaudeville ignoble de l'héritière, adorée pour ses millions. Enfin, n'essayez d'aucune manière, même pas par Paris, d'arriver à moi. Hélas, quoique libre, je suis gardé, et par moi-même d'abord et par des gens de courage qui n'hésiterait point à vous planter un couteau dans le cœur si vous vouliez pénétrer dans ma retraite. Je ne dis point cela pour exciter votre courage ou votre curiosité. Je crois n'avoir besoin d'aucun de ces sentiments pour vous intéresser, pour vous attacher. Je réponds maintenant à la seconde question, édition considérablement augmentée de votre premier sermon. Voulez-vous un aveu ? Eh bien, je me suis dit, en vous voyant si défiant et en me prenant pour une Corinne, dont les improvisations m'ont tant ennuyé, que déjà beaucoup de dixièmes muses vous avaient emmené, vous tenant par la curiosité dans leur double vallon, et vous avaient proposé de goûter aux fruits de leur Parnasse de pensionnaire. Oh, soyez en pleine sécurité, mon ami. Si j'aime la poésie, je n'ai point de petits vers en portefeuille, et mes bas sont et resteront d'une entière blancheur. Vous ne serez pas ennuyé par des légèretés en un ou deux volumes. Enfin, si je ne vous dis jamais, accourez, vous ne trouverez point, vous le savez maintenant, une vieille fille pauvre et laide. Oh, mon ami, si vous saviez combien je regrette que vous soyez venu au Havre, vous avez ainsi modifié ce que vous appelez mon roman. Non, Dieu seul peut peser dans ses mains puissantes le trésor que je réservais à un homme assez grand, assez confiant, assez perspicace pour partir de chez lui sur la foi de mes lettres, après avoir pénétré pas à pas dans l'étendue de mon cœur et arrivé à notre premier rendez-vous avec la simplicité d'un enfant. Je rêvais cette innocence à un homme de génie. Le trésor, vous l'avez écorné. Je vous pardonne, cher poète, vous visez à Paris, et comme vous le dites, il y a un homme dans un poète. Me prendrez-vous à cause de ceci pour une petite fille qui cultive le parterre enchanté des illusions? Ne vous abusez pas à jeter des pierres dans les vitraux cassés d'un château ruiné depuis longtemps. Vous, homme d'esprit, comment n'avez-vous pas deviné que la leçon de votre pédante première lettre, Mademoiselle d'Est se l'était dite à elle-même? Non, cher poète, ma première lettre ne fut pas le caillou de l'enfant qui vagabond le long des chemins, qui se plaît à effrayer un propriétaire lisant la cote de ses contributions à l'abri de ses espaliers, mais bien la ligne appliquée avec prudence par un pêcheur du haut d'une droche au bord de la mer, espérant une pêche miraculeuse. Tout ce que vous dites de beau sur la famille a mon approbation. L'homme qui me plaira, de qui je me croirai digne, aura mon cœur et ma vie de l'aveu de mes parents. Je ne veux ni les affliger ni les surprendre. J'ai la certitude de régner sur eux. Ils sont d'ailleurs sans préjugés. Enfin, je me sens forte contre les illusions de ma fantaisie. J'ai bâti de mes mains une forteresse et je l'ai laissée fortifier par le dévouement sans bornes de ceux qui veillent sur moi comme sur un trésor. Non que je sois de force à me défendre en pleine, car, sachez-le, le hasard m'a revêtu d'une armure bien trempée et sur laquelle est gravé le mot mépris. J'ai l'horreur la plus profonde de tout ce qui sent le calcul, de ce qui n'est pas entièrement noble, pur, désintéressé. J'ai le culte du beau, de l'idéal, sans être romanesque, mais après l'avoir été, pour moi seul, dans mes rêves. Aussi ai-je reconnu la vérité des choses, juste jusqu'à la vulgarité que vous m'avez écrite sur la vie sociale. Pour le moment, nous ne sommes et ne pouvons être que deux amis. Pourquoi chercher un ami dans un inconnu, direz-vous? Votre personne m'est inconnue, mais votre esprit, votre cœur me sont connus. Ils me plaisent et je me sens des sentiments infinis dans l'âme qui veulent un homme de génie pour unique confident. Je ne veux pas que le poème de mon cœur soit inutile. Il brillera pour vous comme il eût brillé pour Dieu seul. Quelle chose précieuse qu'un bon camarade à qui l'on peut tout dire. Refuserez-vous les fleurs inédites de la jeune fille vraie qui voleront vers vous comme les jolis moucherons vers les rayons du soleil? Je suis sûr que vous n'avez jamais rencontré cette bonne fortune de l'esprit, les confidences d'une jeune fille. Écoutez son babil, acceptez les musiques qu'elle n'a encore chantées que pour elle. Et plus tard, si nos âmes sont bien sœurs, si nos caractères se conviennent à l'essai, quelque jour, un vieux domestique à cheveux blancs, placé sur le bord d'une route, vous attendra pour vous conduire dans un chalet, dans une villa, dans un castel, dans un palais. Je ne sais encore de quel genre sera le pavillon jaune et brun de l'Hyménée. Les couleurs de l'Autriche, si puissantes par le mariage, ni si le dénouement est possible, mais Avouez que c'est poétique et que mademoiselle d'Este est de bonne composition. Ne vous laisse-t-elle pas votre liberté? Vient-elle d'un pied jaloux jeter un coup d'œil dans les salons de Paris? Vous impose-t-elle les devoirs d'une entreprise, empiriste, les chaînes que les paladins se mettaient jadis aux bras volontairement? Elle vous demande une alliance purement morale et mystérieuse. Allons, venez dans mon cœur quand vous serez malheureux, blessé, fatigué. Dites-moi bien tout, alors ne me cachez rien. J'aurai des élixirs pour toutes vos douleurs. J'ai 20 ans, mon ami, mais ma raison en a 50, et j'ai malheureusement ressenti dans un autre moi-même les horreurs et les délices de la passion. Je sais tout ce que le cœur humain peut contenir de lâcheté, d'infamie, et je suis néanmoins la plus honnête de toutes les jeunes filles. Non, je n'ai plus d'illusions, mais j'ai mieux. J'ai des croyances et une religion. Tenez, je commence le jeu de nos confidences. Quel que soit le mari que j'aurai, si je l'ai choisi, cet homme pourra dormir tranquille, il pourra s'en aller aux grandes Indes, il me retrouvera finissant la tapisserie commencée à son départ, sans qu'aucun regard ait plongé dans mes yeux, sans qu'une voix d'homme ait flétri l'air dans mon oreille. Et dans chaque point, il reconnaîtra comme un vers du poème dont il aura été le héros. Et quand même, je me serais trompé à quelque belle et menteuse apparence, cet homme aura toutes les fleurs de mes pensées, toutes les coquetteries de ma tendresse, les muets sacrifices d'une résignation fière et non mendiante. Oui, je me suis promis de ne jamais suivre mon mari au dehors quand il ne le voudra pas. Je serai la divinité de son foyer. Voilà ma religion humaine. Mais pourquoi ne pas éprouver et choisir l'homme à qui je serai comme la vie est au corps? L'homme a-t-il jamais gêné de la vie? Qu'est-ce qu'une femme en contrariant celui qu'elle aime? Mais c'est la maladie au lieu de la vie. Par la vie, j'entends cette heureuse santé qui fait de toute heure un plaisir. Revenons à votre lettre qui me sera toujours précieuse. Oui, plaisanterie à part, elle contient ce que je souhaitais. Une expression de sentiments prosaïques, aussi nécessaire dans la famille que l'air au poumon, et sans lesquels il n'est pas de bonheur possible. Agir en honnête homme, penser en poète, aimer comme aiment les femmes, voilà ce que je souhaitais à mon ami, et ce qui maintenant n'est sans doute plus une chimère. Adieu, mon ami. Oh, je suis pauvre pour le moment. C'est une des raisons qui me font chérir mon masque, mon incognito, mon imprenable forteresse. J'ai lu vos derniers vers dans la revue, et avec quelle délice, après m'être initié aux austères et secrets de grandeur de votre âme. Serez-vous bien malheureux de savoir qu'une jeune fille prie Dieu fervemment pour vous, qu'elle fait de vous son unique pensée, et que vous n'avez pas d'autres rivaux qu'un père et une mère? Y a-t-il des raisons de repousser des pages pleines de vous, écrites pour vous, qui ne seront lues que par vous? Rendez-moi l'appareil. Oh, je suis si peu femme encore, que vos confidences, pourvu qu'elles soient entières et vraies, suffiront au bonheur de votre modeste M. Mon Dieu, mais suis-je donc amoureux déjà? S'écria le jeune référendaire, qui s'aperçut d'être resté cette lettre à la main pendant 1 heure après l'avoir lue. Quel parti prendre? Elle croit écrire à notre grand poète. Dois-je continuer cette tromperie? Est-ce une femme de 40 ans ou une jeune fille de 20 ans? Et Ernest demeura fasciné par le gouffre de l'inconnu. L'inconnu, c'est l'infini obscur et rien n'est plus attachant. Il s'élève de cette sombre étendue de feu qui la sillonne par moments et qui colore des fantaisies à la Martian. Dans une vie occupée comme celle de Canalis, une aventure de ce genre est emportée comme un bluet dans les roches d'un torrent. Mais dans celle d'un référendaire attendant le retour aux affaires du système dont le représentant est son protecteur et qui par distraction élevait Canalis au biberon pour la tribune, cette jeune fille, en qui son imagination persistait à lui faire voir la jolie blonde, devait se loger dans le cœur et y causer les mille dégâts des romans qui entrent chez une existence bourgeoise comme un loup dans une basse-cour. Ernest se préoccupa donc beaucoup de l'inconnu du Havre. Il répondit la lettre que voici, lettre étudiée, lettre prétentieuse, mais où la passion commençait à se révéler par le dépit. À Mademoiselle O. d'Este M. Mademoiselle, est-il bien loyal à vous de venir s'asseoir dans le cœur d'un pauvre poète, avec l'arrière-pensée de le laisser là, s'il n'est pas bon selon vos désirs, en lui léguant d'éternels regrets, en lui montrant pour quelques instants une image de la perfection, ne fût-elle que jouée, ou tout au moins un commencement de bonheur? Je fus bien imprévoyant en sollicitant cette lettre où vous commencez à dérouler la rubanerie de vos idées. Un homme peut très bien se passionner pour une inconnue qui s'est alliée tant de hardiesse à tant d'originalité, tant de fantaisie à tant de sentiments. Qui ne souhaiterait de vous connaître après avoir lu cette première confidence? Il me faut des efforts vraiment grands pour conserver ma raison en pensant à vous, car vous avez réuni tout ce qui peut troubler un cœur et une tête d'homme. Aussi profitais-je du reste de sang-froid que je garde en ce moment pour vous faire d'humbles représentations. Croyez-vous donc, mademoiselle, que des lettres plus ou moins vraies par rapport à la vie telle qu'elle est, plus ou moins hypocrites, car les lettres que nous nous écrirons seraient l'expression du moment où elles nous échapperaient, et non pas le sens général de nos caractères, croyez-vous, dis-je, que tant belles soient-elles, elles remplaceront jamais l'expérience que nous ferons de nous-mêmes par le témoignage de la vie vulgaire? L'homme est double. Il y a la vie invisible, celle du cœur à laquelle des lettres peuvent suffire, et la vie mécanique à laquelle on attache, hélas, plus d'importance qu'on ne le croit à votre âge. Ces deux existences doivent concorder à l'idéal que vous caressez, ce qui soit, dit en passant, est très rare. L'hommage pur, spontané, désintéressé d'une âme solitaire à la fois instruite et chaste est une de ces fleurs célestes dont les couleurs, le parfum consolent de tous les chagrins, de toutes les blessures, de toutes les trahisons que comporte à Paris la vie littéraire, et je vous remercie par un élan semblable au vôtre. Mais après ce poétique échange de mes douleurs contre les perles de votre aumône, que pouvez-vous attendre? Je n'ai ni le génie ni la magnifique position de Lord Byron. Je n'ai pas surtout l'auréole de sa damnation postiche et de son faux malheur social. Mais qu'eussiez-vous espéré de lui dans une circonstance pareille? Son amitié, n'est-ce pas? Eh bien, lui, qui devait n'avoir que de l'orgueil, était dévoré de vanités blessantes et maladives qui décourageaient l'amitié. Moi, mille fois plus petit que lui, ne puis-je avoir les dissonances de caractère qui rendent la vie déplaisante et qui font de l'amitié le fardeau le plus difficile? En échange de vos rêveries, que recevriez-vous? Les ennuis d'une vie qui ne serait pas entièrement la vôtre. Mais ce contrat est insensé. Voici pourquoi. Tenez, votre poème projeté n'est qu'un plagiat. Une jeune fille de l'Allemagne, qui n'était pas comme vous une demi-allemande, mais une Allemande tout entière, a dans l'ivresse de ses 20 ans adoré Goethe. Elle en a fait son ami, sa religion, son dieu, tout en le sachant marié. Madame Goethe, en bonne Allemande, en femme de poète, s'est prêtée à ce culte par une complaisance très narquoise et qui n'a pas guéri Bettina. Mais qu'est-il arrivé? Cet extatique a fini par épouser un Allemand. Entre nous, avouons qu'une jeune fille qui se serait faite la servante du génie, qui se serait égalée à lui par la compréhension, qui l'eût pieusement adoré jusqu'à sa mort, comme fait une de ces divines figures tracées par les peintres dans les volets de leur chapelle mystique, et qui, lorsque l'Allemagne perdra Goethe, se serait retirée en quelque solitude pour ne plus voir personne, comme fit l'ami de Lord Bolingbroke, avouons que cette jeune fille se serait incrustée dans la gloire du poète comme Marie-Madeleine l'est à jamais dans le sanglant triomphe de notre sauveur. Et si ceci est le sublime, que dites-vous de l'envers? N'étant ni Lord Byron ni Goethe, deux colosses de poésie et d'égoïsme, mais tout simplement l'auteur de quelques poésies estimées, je ne saurais réclamer les honneurs d'un culte. Je suis très peu martyr. J'ai tout à la fois du cœur et de l'ambition, car j'ai ma fortune à faire et suis encore jeune. Voyez-moi comme je suis. La bonté du roi, les protections de ses ministres me donnent une existence convenable. J'ai toutes les allures d'un homme fort ordinaire. Je vais aux soirées de Paris absolument comme le premier sot venu, mais dans une voiture dont les roues ne portent pas sur un terrain solidifié, comme le veut le temps présent, par les inscriptions de rente sur le grand livre. Si je ne suis pas riche, je n'ai donc pas non plus le relief que donne la mansarde, le travail incompris, la gloire dans la misère, à certains hommes qui valent mieux que moi, comme d'Arthès par exemple. Quel dénouement prosaïque allez-vous chercher aux fantaisies enchanteresses de votre jeune enthousiasme? Non, restons-en là. Si j'ai eu le bonheur de vous sembler une rareté terrestre, vous aurez été pour moi quelque chose de lumineux et d'élevé, comme ces étoiles qui s'enflamment et disparaissent. Que rien ne ternisse cet épisode de notre vie. En continuant ainsi, je pourrais vous aimer et concevoir une de ces passions folles qui font briser les obstacles, qui vous allument dans le cœur des feux dont la violence est inquiétante relativement à leur durée. Et supposez que je réunisse auprès de vous, nous finissons de la façon la plus vulgaire, un mariage des enfants. Oh, Bélise et Henriette, Chrysale ensemble, est-ce possible? Adieu donc. Ah, monsieur de Canalis. Mon ami, votre lettre m'a fait autant de chagrin que de plaisir. Peut-être aurons-nous bientôt tout plaisir en nous lisant. Comprenez-moi bien. On parle à Dieu, nous lui demandons une foule de choses, il reste muet. Moi, je veux trouver en vous les réponses que Dieu ne nous fait pas. L'amitié de mademoiselle de Gournay et de Montaigne ne peut-elle se recommencer? Ne connaissez-vous pas le ménage de Sismonde, de Sismondi à Venève? Le plus touchant d'intérieur qu'on connaisse, dont on m'a parlé, quelque chose comme le marquis et la marquise de Pesquer, heureux jusque dans leur vieillesse. Mon Dieu, serait-il impossible qu'il existât, comme dans une symphonie, deux harpes qui, à distance, se répondent, vibrent et produisent une délicieuse mélodie? L'homme seul dans la création est à la fois la harpe, le musicien et l'écouteur. Me voyez-vous inquiète à la manière des femmes ordinaires? Ne sais-je pas que vous allez dans le monde, que vous y voyez les plus belles et les plus spirituelles femmes de Paris? Ne puis-je présumer qu'une de ces sirènes ne daigne vous enlacer de ses froides écailles et qu'elle a fait la réponse dont les prosaïques considérations m'attristent? Il est, mon ami, quelque chose de plus beau que ces fleurs de la coquetterie parisienne. Il existe une fleur qui croît en haut de ces pics alpestres nommés hommes de génie, l'orgueil de l'humanité qu'il féconde en y versant les nuages puisés avec leur tête dans les cieux. Bien cette fleur, je la veux cultiver et faire épanouir, car ces sauvages et doux parfums ne le manqueront jamais, ils sont éternels. Faites-moi l'honneur de ne croire à rien de vulgaire en moi. Si j'eusse été Bettina, car je sais à qui vous avez fait allusion, je n'aurais jamais été Madame d'Arnim. Et si j'avais été l'une des femmes de Lord Byron, je serais à cette heure dans un couvent. Vous m'avez atteinte à l'endroit sensible. Vous ne me connaissez pas, vous me connaîtrez. Je sens en moi quelque chose de sublime dont on peut parler sans vanité. Dieu a mis dans mon âme la racine de cette plante hybride née au sommet de ces Alpes dont je viens de parler et que je ne veux pas mettre dans un pot de fleurs sur ma croisée pour l'y voir mourir. Non, ce magnifique calice unique aux odeurs enivrantes ne sera pas traîné dans les vulgarités de la vie. Il est à vous, sans qu'aucun regard le flétrisse. À vous, à jamais, oui, cher, à vous, toutes mes pensées, même les plus secrètes, les plus folles. À vous un cœur de jeune fille sans réserve, à vous une affection infinie. Si votre personne ne me convient pas, je ne me marierai point. Je puis vivre de la vie du cœur, de votre esprit, de vos sentiments. Ils me plaisent, et je sais, ferai toujours tout ce que je suis pour votre ami. Il y a chez vous du beau dans le moral, et cela me suffit. Là sera ma vie. Ne faites pas fi d'une jeune et jolie servante qui ne recule pas d'horreur à l'idée d'être un jour la vieille gouvernante du poète, un peu sa mère, un peu sa ménagère, un peu sa raison, un peu sa richesse. Cette fille dévouée, si précieuse à vos existences, est l'amitié pure et désintéressée, à qui l'on dit tout, qui écoute quelquefois en hochant la tête et qui veille en filant à la lueur de la lampe, après d'être là quand le poète revient ou trempé de pluie ou maugréant. Voilà ma destinée. Si je n'ai pas celle de l'épouse heureuse et attachée à jamais, je souris à l'une comme à l'autre. Et croyez-vous que la France sera bien lésée parce que Mademoiselle d'Este ne lui donnera pas 2 ou 3 enfants, parce qu'elle ne sera pas une Madame Vilquin quelconque? Quant à moi, jamais je ne serai vieille fille. Je me ferai mère par la bienfaisance et par ma secrète coopération à l'existence d'un homme grand à qui je rapporterai mes pensées et mes efforts ici-bas. J'ai la plus profonde horreur de la vulgarité. Si je suis libre, si je suis riche, je me sais jeune et belle, je ne serai jamais ni à quelque niais, sous prétexte qu'il est le fils d'un pair de France, ni à quelque négociant qui peut se ruiner un jour, ni à quelque bel homme qui sera la femme dans le ménage, ni à aucun homme qui me ferait rougir 20 fois par jour d'être à lui. Soyez bien tranquille à ce sujet. Mon père a trop d'adoration pour mes volontés. Il ne les contrariera jamais. Si je plaise à mon poète, s'il me plaît, le brillant édifice de notre amour sera bâti si haut qu'il sera parfaitement inaccessible au malheur. Je suis une aiglonne, et vous le verrez à mes yeux. Je ne vous répéterai pas ce que je vous ai dit déjà, mais je le mets en moins de mots en vous avouant que je serai la femme la plus heureuse d'être emprisonnée par l'amour, comme je le suis en ce moment par la volonté paternelle. Et, mon ami, réduisons à la vérité du roman ce qui nous arrive par ma volonté. Une jeune fille à l'imagination vive, enfermée dans une tourelle, se meurt d'envie de courir dans le parc où ses yeux seulement pénètrent. Elle invente un moyen de déceler sa grille, elle saute par la croisée, escalade le mur du parc et va folâtrer chez le voisin. Mais c'est un vaudeville éternel. Eh bien, cette jeune fille est mon âme, et le parc du voisin est votre génie. N'est-ce pas bien naturel? A-t-on jamais vu de voisin qui se soit plaint de son treillage cassé par de jolis pieds? Voilà pour le poète, mais le sublime raisonneur de la comédie de Molière veut-il des raisons? En voici. Mon cher Géronte, ordinairement les mariages se font au rebours du sens commun. Une famille prend des renseignements sur un jeune homme. Si le Léandre fourni par la voisine ou pêché dans un bal n'a pas volé, et s'il n'a pas de tare visible, s'il a la fortune qu'on lui désire, s'il sort d'un collège ou d'une école de droit, ayant satisfait aux idées vulgaires sur l'éducation, et s'il porte bien ses vêtements, on lui permet de venir voir une jeune personne, lassée de le matin, à qui sa mère ordonne de bien veiller sur sa langue et recommande de ne rien laisser passer de son âme et de son cœur sur sa physionomie, en y gravant un sourire de danseuse achevant sa pirouette, armé des instructions les plus positives sur le danger de montrer son vrai caractère et à qui l'on recommande de ne pas paraître d'une instruction inquiétante. Les parents, quand les affaires d'intérêt sont bien convenues entre eux, ont la bonhomie d'engager les prétendus à se connaître l'un l'autre pendant des moments assez fugitifs où ils sont seuls, où ils causent, où ils se promènent sans aucune espèce de liberté car ils se savent déjà liés. Un homme se costume alors aussi bien l'âme que le corps, et la jeune fille en fait autant de son côté. Cette pitoyable comédie, entremêlée de bouquets, de parures, de parties de spectacles, s'appelle faire la cour à sa prétendue. Mais voilà ce qui m'a révolté, et je veux faire succéder le mariage légitime à quelque long mariage des âmes. Une jeune fille n'a dans toute sa vie que ce moment où la réflexion, la seconde vue, l'expérience lui soit nécessaire. Elle joue sa liberté, son bonheur, et vous ne lui laissez ni le cornet ni les dés. Elle parie, elle fait galerie. J'ai le droit, la volonté, le pouvoir, la permission de faire mon malheur moi-même, et j'en use comme fit ma mère, qui, conseillée par l'instinct, épousa le plus généreux, le plus dévoué, le plus amant des hommes, aimé dans une soirée pour sa beauté. Je vous sais libre, poète et beau. Soyez sûr que je n'aurais pas choisi pour confident l'un de vos confrères, en Apollon déjà marié. Si ma mère fut séduite par la beauté, qui peut être le génie de la forme, pourquoi ne serais-je pas attiré par l'esprit et la forme réunies? Serais-je plus instruite en vous étudiant par correspondance qu'en commençant par l'expérience vulgaire des quelques mots de cour? Ceci est la question, dirait Hamlet. Mais mon procédé, mon cher Chrysale, a du moins l'avantage de ne pas compromettre nos personnes. Je sais que l'amour a ses illusions, et toute illusion à son lendemain. Là se trouve la raison de tant de séparations entre amants qui se croyaient liés pour la vie. La véritable épreuve est la souffrance et le bonheur. Quand, après avoir passé par cette double épreuve de la vie, deux êtres y ont déployé leurs défauts et leurs qualités, qu'ils y ont observé leur caractère, alors ils peuvent aller jusqu'à la tombe en se tenant par la main. Mais, mon cher Argante, qui vous dit que notre petit drame commencé n'a pas d'avenir? En tout cas, n'aurons-nous pas joui du plaisir de notre correspondance? J'attends vos ordres, mon seigneur, et suis de grand cœur votre servante, Odeste M. Ah, mademoiselle Odeste M. Tenez, vous êtes un démon, je vous aime, est-ce là ce que vous désirez, fille originale? Peut-être voulez-vous seulement occuper votre oisiveté de province par le spectacle des sottises que peut faire un poète. Ce serait une bien mauvaise action. Vos deux lettres accusent précisément assez de malice pour inspirer ce doute à un Parisien. Mais je ne suis plus maître de moi, ma vie et mon avenir dépendent de la réponse que vous me ferez. Dites-moi si la certitude d'une affection sans bornes, accordée dans l'ignorance des conventions sociales, vous touchera. Enfin, si vous m'admettez à vous rechercher, il y aura bien assez d'incertitude et d'angoisse pour moi dans la question de savoir si ma personne vous plaira. Si vous répondez favorablement, je change ma vie et dis adieu à bien des ennuis que nous avons la folie d'appeler le bonheur. Le bonheur, ma chère belle inconnue, mais il est ce que vous rêvez. Une fusion complète des sentiments, une parfaite concordance d'âme, une vive empreinte du beau idéal. Ce que Dieu nous permet d'en avoir ici-bas, sur les actions vulgaires de la vie, au train de laquelle il faut bien obéir, enfin, la constance du cœur, plus prisable que ce que nous nommons la fidélité. Peut-on dire qu'on fait des sacrifices dès qu'il s'agit d'un bien suprême? Le rêve des poètes, le rêve des jeunes filles, le poème qu'à l'entrée de la vie et dès que la pensée essaie ses ailes, chaque belle intelligence a caressé de ses regards et couvé les yeux pour le voir se briser dans un achoppement aussi dur que vulgaire. Car pour la presque totalité des hommes, le pied du réel se pose aussitôt sur cet œuf mystérieux qui n'éclot presque jamais. Aussi ne vous parlerai-je pas encore de moi, ni de mon passé, ni de mon caractère, ni d'une affection quasi maternelle d'un côté, filiale du mien, que vous avez déjà gravement altérée, et dont l'effet sur ma vie expliquerait le mot de sacrifice. Vous m'avez déjà rendu bien oublieux, pour ne pas dire ingrat, et ça c'est pour vous. Oh, parlez, dites un mot, et je vous aimerai jusqu'à ce que mes yeux se ferment, comme le marquis de Pescaire aima sa femme, comme Roméo sa Juliette, et fidèlement. Notre vie, pour moi du moins, sera cette félicité sans trouble dont parle Dante, comme étant l'élément de son paradis, poème bien supérieur à son enfer. Chose étrange, ce n'est pas de moi, mais de vous, que je doute dans les longues méditations par lesquelles je me suis plu, comme vous peut-être, à embrasser le cours chimérique d'une existence rêvée. Oui, cher, je me sens la force d'aimer ainsi, d'aller vers la tombe avec une douce lenteur et d'un air toujours riant, en donnant le bras à une femme aimée, sans jamais troubler le beau temps de l'âme. Oui, j'ai le courage d'envisager notre double vieillesse, de nous voir en cheveux blancs comme le vénérable historien de l'Italie, encore animé de la même affection, mais transformé selon l'esprit de chaque saison. Tenez, je ne puis plus n'être que votre ami. Quoique chrysale, oronte et ardente revive, dites-vous en moi, je ne suis pas encore assez vieillard pour boire une coupe tenue par les charmantes mains d'une femme voilée, sans éprouver un féroce désir de déchirer le domino, le masque, et de voir le visage. Non, vous ne m'écrivez plus, vous donnez-moi l'espérance. Que je vous entrevoie ou je quitte la partie. Faut-il vous dire adieu? Me permettez-vous de signer votre ami? Un monsieur de Canalis. Quelle flatterie! Avec quelle rapidité le grave Anselme est devenu le beau Léandre! À quoi dois-je attribuer un tel changement? Est-ce à ce noir que j'ai mis sur du blanc? À ces idées qui sont aux fleurs de mon âme? Ce qu'est d'une rose dessinée au crayon noir, aux roses du parterre? On a souvenir de la jeune fille prise pour moi et qui est à ma personne ce que la femme de chambre est à la maîtresse. Avons-nous changé de rôle? Suis-je la raison et êtes-vous la fantaisie? Trêve de plaisanterie. Votre lettre m'a fait connaître d'enivrants plaisirs d'âme, les premiers que je ne devrais pas aux sentiments de la famille. Que sont, comme a dit un poète, les liens du sang qui ont tant de poids sur les âmes ordinaires en comparaison de ceux que nous forge le ciel dans les sympathies mystérieuses? Laissez-moi vous remercier. Non, on ne remercie pas de ces choses, mais soyez bénis du bonheur que vous m'avez causé. Soyez heureux de la joie que vous m'avez répandue dans mon âme. Vous m'avez expliqué quelques apparentes injustices de la vie sociale. Il y a je ne sais quoi de brillant dans la gloire, de mal qui ne va bien qu'à l'homme. Et Dieu nous a défendu de porter cette auréole en nous laissant l'amour, la tendresse, pour en rafraîchir les fronts saints de sa terrible lumière. J'ai senti ma mission, ou plutôt, vous me l'avez confirmée. Quelquefois, mon ami, je me suis levé le matin dans un état d'inconcevable douceur. Une sorte de paix, tendre et divine, me donnait l'idée du ciel. Ma première pensée était comme une bénédiction. J'appelais ces matinées mes petits levers d'Allemagne, en opposition avec mes couchers de soleil de midi, pleins d'actions héroïques, de batailles, de fêtes romaines et de poèmes ardents. Eh bien, après avoir lu cette lettre où vous ressentez une fiévreuse impatience, moi j'ai eu dans le cœur la fraîcheur d'un de ces célestes réveils où jamais l'air, la nature, et me sentais destiné à mourir pour un être aimé. Une de vos poésies, le chant d'une jeune fille, peint ces moments délicieux où l'allégresse est douce, où la prière est un besoin, et c'est mon morceau favori. Voulez-vous que je vous dise toutes mes flatteries en une seule? Eh bien, je vous crois digne d'être moi. Votre lettre, quoique courte, m'a permis de lire en vous. Oui, j'ai deviné vos mouvements tumultueux, votre curiosité piquée, vos projets, tous les fagots apportés. Par qui? Pour le bûcher du cœur. Mais je n'en sais pas encore assez sur vous pour satisfaire à votre demande. Écoutez, cher, le mystère me permet cet abandon qui laisse voir le fond de l'âme. Une fois vu, adieu notre mutuelle connaissance. Voulez-vous un pacte? Le premier conclu vous fut-il désavantageux? Vous y avez gagné mon estime. Et c'est beaucoup, mon ami, qu'une admiration qui se double de l'estime. Écrivez-moi d'abord votre vie en peu de mots, puis racontez-moi votre existence à Paris au jour le jour, sans aucun déguisement et comme si vous causiez avec une vieille amie. Eh bien, après, je ferai faire un pas à notre amitié. Je vous verrai, mon ami, je vous le promets. Et c'est beaucoup. Tout ceci, cher, n'est ni une intrigue, ni une aventure, je vous en préviens. Il ne peut en résulter aucune espèce de galanterie, ainsi que vous dites entre hommes. Il s'agit de ma vie, et ce qui me cause parfois d'affreux remords sur les pensées que je laisse envoler par troupe vers vous, il s'agit de celle d'un père et d'une mère adorée à qui mon choix doit plaire et qui doivent trouver un vrai fils dans mon ami. Jusqu'à quel point vos esprits superbes à qui Dieu donne les ailes de ses anges sans leur en donner toujours la perfection, peuvent-ils se plier à la famille, à ces petites misères? Quel texte médité déjà par moi? Oh, si j'ai dit dans mon cœur avant de venir à vous, allons, je n'en ai pas moins eu le cœur palpitant dans la course, et je ne me suis dissimulé ni les aridités du chemin, ni les difficultés de l'Alpe que j'avais à gravir. J'ai tout embrassé dans de longues méditations. Ne sais-je pas que les hommes éminents comme vous l'êtes ont connu l'amour qu'ils ont inspiré tout aussi bien que celui qu'ils ont ressenti, qu'ils ont eu plus d'un roman, et que vous, surtout, en caressant ces chimères de race que les femmes achètent à des prix fous, vous vous êtes attiré plus de dévouement que de premiers chapitres. Et néanmoins, je me suis écrié « Allons !» parce que j'ai plus étudié que vous ne le croyez la géographie de ces grands sommets de l'humanité taxés par vous de froideur. Ne m'avez-vous pas dit de Byron et de Goethe qu'ils étaient deux colosses d'égoïsme et de poésie? Eh, mon ami, vous avez partagé là l'erreur dans laquelle tombent les gens superficiels. Mais peut-être était-ce chez vous générosité, fausse modestie ou désir de m'échapper. Permis aux vulgaires et non à vous de prendre les effets du travail pour un développement de la personnalité. Ni Lord Byron, ni Goethe, ni Walter Scott, ni Cuvier, ni l'inventeur ne s'appartiennent, ils sont les esclaves de leur idée. Et cette puissance mystérieuse est plus jalouse qu'une femme. Elle les absorbe, elle les fait vivre et les tue à son profit. Les développements visibles de cette existence cachée ressemblent en résultat à l'égoïsme. Mais comment oser dire que l'homme qui s'est vendu à plaisir, à l'instruction ou à la grandeur de son époque est égoïste? Une mère est-elle atteinte de personnalité quand elle immole tout à son enfant? Eh bien, les détracteurs du génie ne voient pas sa seconde maternité, voilà tout. La vie du poète est si continuel sacrifice qu'il lui faut une organisation gigantesque pour pouvoir se livrer au plaisir d'une vie ordinaire. Aussi, dans quel malheur ne tombe-t-il pas quand, à l'exemple de Molière, il veut vivre de la vie des sentiments tout en les exprimant dans leur plus poignante crise. Car pour moi, superposé à sa vie privée, le comique de Molière est horrible. Pour moi, la générosité du génie est quasi divine, et je vous ai placé dans cette noble famille de prétendus égoïstes. Ah, si j'avais trouvé la sécheresse, le calcul, l'ambition, là où j'admire toutes mes fleurs d'âme les plus amies, vous ne savez pas de quelle longue douleur j'eusse été atteinte. J'ai déjà rencontré le mécompte assis à sa porte de mes 16 ans. Que serais-je devenu en apprenant à 20 ans que la gloire est menteuse, en voyant celui qui, dans ses œuvres, avait exprimé tant de sentiments cachés dans mon cœur, ne pas comprendre ce cœur, quand il se dévoilait pour lui seul? Oh, mon ami, savez-vous ce qui serait advenu de moi? Vous allez pénétrer dans l'arrière de mon âme. Eh bien, j'aurais dit à mon poète, amenez-moi le gendre qui sera de votre goût. J'abdique toute volonté. Mariez-moi pour vous. Et cet homme eût été notaire, banquier, avare, sot, homme de province, ennuyeux comme un jour de pluie, vulgaire comme un électeur de petit collège. Il eût été fabricant ou quelque brave militaire sans esprit, Il aurait eu la servante la plus résignée et la plus attentive en moi. Mais horrible suicide de tous tes moments. Jamais, non, mon âme se serait dépliée au jour vivifiant d'un soleil aimé. Aucun murmure n'aurait révélé ni à mon père, ni à ma mère, ni à mes enfants le suicide de la créature qui, dans ce moment, ébranle les barreaux de sa prison, qui lance des éclairs par mes yeux, qui vole à pleines ailes vers vous, qui se pose comme une polymnie à l'angle de votre cabinet, en y respirant l'air, en y regardant tout d'un œil doucement curieux. Quelquefois, dans les champs où mon mari m'aurait mené, en m'échappant à quelques pas de mes marmots, en voyant une splendide matinée, secrètement, j'eusse jeté quelques pleurs bien amers. Enfin, j'aurais eu dans mon cœur et dans un coin de ma commode un petit trésor pour toutes les jeunes filles abusées par l'amour, pauvres âmes poétiques, attirées dans les supplices par des sourires. Mais je crois en vous, mon ami. Cette croyance rectifie les pensées les plus fantasques de mon ambition secrète, et par moments, voyez jusqu'où va ma franchise, je voudrais être au milieu du livre que nous commençons, tant je me sens de fermeté dans mon sentiment, tant de force au cœur pour aimer, tant de constance par raison, tant d'héroïsme pour le devoir que je me crée, si l'amour peut jamais se changer en devoir. S'il vous était donné de me suivre dans la magnifique retraite où je vous vois heureux, si vous connaissiez mes projets, il vous échapperait une phrase terrible, où serait le mot folie, et peut-être serais-je cruellement puni d'avoir employé tant de poésie à un poète. Oui, je veux être une source, inépuisable comme un beau pays, pendant les 20 ans que nous accorde la nature pour briller. Je veux éloigner la satiété par la coquetterie et la recherche. Je serai courageuse pour mon ami, comme les femmes le sont pour le monde. Je veux varier le bonheur, je veux mettre de l'esprit dans la tendresse, du piquant dans la fidélité. Ambitieux, je veux tuer les rivales dans le passé, conjuguer les chagrins extérieurs par la douceur de l'épouse, par sa fière abnégation, et avoir pendant toute la vie ces soins du nid que les oiseaux n'ont que pendant quelques jours. Cette immense dot, elle appartenait, elle devait être offerte à un grand homme, avant de tomber dans la fange des transactions vulgaires. Et trouvez-vous maintenant ma première lettre une faute? Le vent d'une volonté mystérieuse m'a jeté vers vous, comme une tempête apporte un rosier au cœur d'un saule majestueux. Et dans la lettre que je tiens là, sur mon cœur, vous vous êtes écrié, comme votre ancêtre, « Dieu le veut !» quand il partit pour la croisade. Oh, ne direz-vous pas, elle est bien bavarde. Autour de moi, tous disent, « Oh, elle est bien taciturne, mademoiselle. Oh, d'est même. »